franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan. Bonjour pour la Patrick. Revue de presse. On commence par une histoire de blanchiment.
Si je vous parle de la Suisse, Patrick, vous pensez paysage alpin, horlogerie ou chocolat et pas forcément place financière opaque. Eh bien, c'est à ça que voudrait parvenir le Luxembourg. Alors que le procès des lanceurs d'alerte du scandale LuxLeaks doit démarrer le 26 avril prochain, le site Les Jours raconte ce matin l'opération de blanchiment d'image dans laquelle s'est lancé le Grand-Duché. En bon français, ça s'appelle le « nation branding ». Un pays étant considéré comme une marque, il s'agit pour les autorités du Luxembourg de tenter de promouvoir une autre identité que celle à laquelle on l'associe habituellement, celle d'un paradis fiscal. Alors sur quoi s'appuyer pour changer l'image du pays ? Le journaliste Nicolas Cory raconte que depuis 2 ans, après consultation des citoyens par Internet, ateliers avec des politiques, des syndicalistes, des patrons, 3 termes censés incarner le pays ont émergé : fiabilité, ouverture et dynamisme. Le problème, c'est que ça ne colle pas vraiment. Un seul exemple. Prêter aux Luxembourgeois un sens de l'ouverture s'est révélé en décalage avec l'événement politique majeur du pays l'an dernier, raconte le journaliste. La population a massivement rejeté la possibilité de donner le droit de vote aux résidents étrangers, qui représentent quand même 46% de la population du pays. Qu'importe, l'initiative publicitaire plaît surtout au milieu d'affaires. L'idée, c'est que les entreprises ne se posent pas la question d'image quand elles décident d'installer leur siège social au Luxembourg. C'est peut-être là l'objectif inavoué de tout le processus, conclut Nicolas Cory, blanchir l'image du pays tout en laissant son modèle économique inchangé.
Dans la presse également ce matin, retour sur le processus de destitution engagé contre la présidente brésilienne Dilma Rousseff.
Et si aucun de vos journaux n'épargne la présidente, ex-guerriera devenue présidente autoritaire, relève le Figaro, beaucoup de questions néanmoins sur le vote de dimanche. Pour le journal L'Humanité, c'est l'histoire d'une bourgeoisie revancharde qui veut la peau de la gauche. Même tonalité dans l'article d'Armel Enders, spécialiste du Brésil à Paris-Sorbonne, publié sur le site The Conversation. Vous avez parlé de coup d'État, Sébastien Salgado. Eh bien, cette universitaire y affirme elle aussi que ce 17 avril restera un jour de honte dans les annales du Brésil. Celui du triomphe de ce que le pays a de plus rétrograde, explique-t-elle. Passons sur le spectacle peu reluisant de cette nuit de vote. Selfie à gogo de députés qui profitent d'une minute de gloire, quand un autre dédie son vote à la mémoire du colonel Oustra, tortionnaire patenté et personnel de Dilma Rousseff pendant la dictature militaire. Pour Armel Enders, ce détail effroyable est révélateur de l'esprit de revanche, voire de vengeance qui a saisi les droites brésiliennes, qui n'ont jamais vraiment digéré l'élection au suffrage universel du président de la République, surtout depuis les victoires à répétition de la gauche. Une partie des couches supérieures, écrit-elle, est convaincue que la démocratie n'est pas adaptée à la plèbe brésilienne, en majorité pauvre et noire. Du coup, tous les coups sont permis contre Dilma Rousseff, raconte-t-elle, qui n'est à ce jour sous le coup d'aucune procédure judiciaire, contrairement, vous l'avez dit vous aussi Sébastien Salgado, à une 50aine de députés qui ont participé au vote dimanche et à leur président Eduardo Cunha. Mascarade, conclut-elle, que ce vote du 17 avril qui laisse très pessimiste sur les chances du Brésil de se tirer de cette ornière et reprendre le chemin de la croissance économique.
À l'étranger encore, Hélène, la campagne des anti-Brexit au Royaume-Uni, chiffres à l'appui.
Quitter l'Union européenne équivaudrait à s'automutiler. Tribune choc hier du chancelier de l'échiquier George Osborne au Times. Le ministre de l'économie de David Cameron, qui s'appuie sur un rapport dévoilé du Trésor britannique, qui évalue, nous dit le Figaro Économie, à 6% du PIB d'ici 15 ans, le manque à gagner par rapport au maintien en Europe de la Grande-Bretagne. Soit 5 400 € de perdus par an pour chaque foyer. Alors les partisans d'une sortie de l'Union dénoncent évidemment une campagne de la peur, mais une telle approche a néanmoins fonctionné, relève le Figaro, lors du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014. Et puis, grand reportage poignant qui fait écho au prix Pulitzer que vous avez évoqué, Patrick. Un grand reportage à retrouver sur le site de l'AFP à la rubrique Making of du photographe Bülent Kilic dans le camp des réfugiés d'Idoménie en Grèce. 11 000 personnes s'y entassent dans le désespoir absolu, au milieu de la boue, des excréments, avec pour unique activité de tenter d'obtenir de la nourriture. Le photographe raconte comment chacun devient fou là-bas. « Même moi », écrit-il, « moi qui ai couvert d'innombrables situations de ce genre, moi qui vais rentrer chez moi, je me sens de plus en plus déprimé, de plus en plus agressif. Dans ces circonstances, qui ne perdrait pas la raison », s'interroge-t-il. Perdre la raison face aux barbelés.
Les photoreporters en première ligne, vous le disiez, Sébastien Salgado.
Absolument. C'est une activité permanente, vous savez. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les photographes, des reportages, et ces jeunes qui viennent de gagner les Pulitzer, ça la relève de toute une génération de Cartier-Bresson, de Capa, de Jim Nartway, qui arrivent, qui continuent à raconter la même histoire, notre histoire.
Il y a une phrase qui a retenu l'attention aussi dans ce sujet du photographe de l'AFP. Cette phrase, c'est « J'ai déjà vu des choses pareilles dans des zones de guerre, mais ici nous sommes en Grèce, un pays en paix de l'Union européenne. » C'est ça qui frappe, c'est ce drame de réfugiés et cette situation absolument apocalyptique qui est à nos portes de grands pays développés.
Et oui, parce que c'est un drame de l'humanité. C'est pas un drame de la Grèce, de l'Afrique, n'est-ce pas? C'est que je vis dans la ex-Yougoslavie. Oui. Vous savez, à la fin des années 90, un pays développé, un pays européen, vous savez, au niveau de violence, pas différent des autres que je vis en Afrique, en Amérique latine et partout. On est la même espèce. Les problèmes, c'est les mêmes.
Et on continuera à parler avec vous tout à l'heure, si les auditeurs le souhaitent, d'Afrique et d'Amérique latine que vous avez intensément sillonné, Sébastien Salgado. Retour en France, Hélène, avec un zoom sur la Canebière.
Belkacem Gaudin réunit pour les écoles, titre La Provence. La ministre de l'Éducation était en effet hier à Marseille pour signer avec le maire un engagement conjoint à hauteur de 10 millions d'euros pour mettre fin à la vétusté, voire à l'insalubrité de certaines écoles marseillaises. Un scandale révélé publiquement par une enseignante marseillaise et relayé en janvier par Libération. Alors après avoir crié à la manipulation politique et médiatique, Jean-Claude Gaudin convient qu'il fallait faire quelque chose. Extrait de son interview dans La Provence. « Quand on gère 444 écoles, bien sûr il peut y avoir ici un robinet qui fuit. Mais je croyais qu'on était nickel. Alors c'est vrai, j'étais un petit peu surpris. » Jean-Claude Gaudin, qui a donc finalement débloqué 5 millions d'euros sur 5 ans, ça fait cher le robinet qui fuit. En réalité, 114 écoles sont concernées. Et puis, Canebière, mais pas que, sachez que l'euro ne sera pas que footballistique en juin prochain, il sera footballistico-culturel. C'est Claire Baumelard dans le Figaro qui nous raconte l'injonction du ministère de la Culture. Cette coupe doit être une fête dans tout le pays. Ni une, ni deux. Les 10 villes qui accueilleront les matchs sont donc en train de montrer des expos, des animations, chacune son thème, Europe et foot par exemple à Nice. Certains directeurs de musées pas franchement versés dans le foot ont dû faire appel à des consultants extérieurs, quand d'autres espèrent profiter de l'occasion pour attirer un nouveau public. Certains Lensois ne sont jamais venus au Louvre-Lens, explique le président du Louvre. Peut-être ont-ils besoin d'apporter leurs objets et donc leur culture pour s'y sentir à l'aise, espère-t-il. Si tu ne viens pas à la culture, le foot t'y amènera donc. Enfin, peut-être.
Merci Hélène Jean pour la revue de presse sur Inter.